Bienvenue aux marques et aux smart et à ceux qui n'aiment pas qu'on les mette dans des petites boîtes pour ce nouvel épisode de Catch Up, votre podcast entièrement dédié à l'analyse de Monday Night Raw. Je suis Yarem, votre animateur d'un soir, et je suis accompagné de Hank, l'herboriste de Clignancourt.
Qu'est-ce que c'est que ce surnom? On ne m'a pas prévenu. Bonjour à tous, bonjour aux lecteurs des cahiers du catch. Et donc voilà, je suis désormais invité, on ne sait pas pendant combien de temps.
Et je suis également accompagné de Giscal, le brûleur de coquillettes. Salut Giscal.
Bonsoir, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous écouterez ce show.
Donc nous allons décortiquer ensemble l'épisode du 16 mai, qui avait lieu, je crois, à Greensboro, en Caroline du Nord. Je ne saurais pas vous le mettre sur une carte, mais c'était important de le préciser.
C'est juste au nord de la Caroline du Sud.
Merci Giscal.
C'est
un, en tout cas, qui n'a pas brûlé ses pattes, mais qui a mis le feu à l'arène, c'est AJ Styles, qui a ouvert cet épisode de Raw. Donc AJ Styles, le leader du club, donc grosse pop hein, pour AJ Styles. Donc qui est venu un petit peu se plaindre qu'il en avait marre d'être appelé un menteur par Roman Reigns, qu'il entendait partout, qu'on lui parlait de son amitié avec Anderson et Gallows, qui comme quoi il avait un master plan, etc. Pour autant, il dit qu'il a combattu dans les plus grosses arènes, qu'il a gagné tous les titres les plus prestigieux, donc il a besoin de personne. Évidemment, il en faut pas moins pour voir débarquer Roman Reigns, qui lui ressort un peu le même couplet, sauf qu'à la différence de dire que c'est pas The Guy, c'est The Championship, et AJ Styles doit gagner s'il veut vraiment être reconnu comme étant le champion. Donc il lui annonce qu'évidemment, il va le battre à Extreme Rules, et que le clan de la famille, The Bloodline, est plus fort que le club. Donc évidemment, intervention d'Anderson et Gallows qui n'aiment pas trop qu'on dise du mal de leurs potes. Les Usos sont déjà là. Alors perso, je les avais pas vus débarquer, mais visiblement, ils devaient être cachés sous le ring. Et tout ce beau monde se chamaille un peu à distance. Ce qui va évidemment donner lieu à une rencontre qui était visiblement déjà programmée entre le club et la family. Dans le sens où ce sont les Usos qui affrontent Anderson et Gallows. Donc Roman Reigns et AJ Styles avaient un rôle de manager aux abords du ring. Ce match a eu lieu finalement en milieu de show, donc un peu comme la semaine dernière si je me souviens bien. La foule était plutôt électrique pour ce match. Il y avait une grosse ambiance, on était en milieu de show là je vous rappelle. Donc les Usos, Anderson et Gallows ont vraiment sorti un match assez solide, qui s'est soldé par une séquence de kick des Usos, un splash et donc la victoire de la family. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir un petit peu les réactions de nos managers aux abords du ring. Roman Reigns qui pavanait pas mal avec sa ceinture, qui faisait un peu le fier. Et AJ Styles qui avait plutôt l'air un petit peu, pas embarrassé, mais presque par les sales coups que utilisaient Gallows et Anderson pour tenter de vaincre leurs opposants. AJ Styles a enfin utilisé la chaise, en tout cas tenté d'utiliser la chaise qu'il avait à sa disposition pour mettre Reigns à terre, mais Reigns le contre et commence à passer AJ Styles à tabac, qui finit par récupérer la chaise à son tour, se défoule comme un taré sur Roman Reigns. Ça se termine sur un Styles Clash sur la chaise. Donc on sent là qu'on arrive vraiment à l'apogée de toutes les tensions qu'il y a entre ces deux clans. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé vous de ce match, et surtout de l'évolution un petit peu, la psychologie finalement anime pas mal cette rivalité.
Giscal, vas-y.
Le mec, il balance, tu sais.
Bah écoute, moi j'ai bien aimé dans l'ensemble. Bon, le segment d'ouverture était un peu chelou pour ceux qui suivent Raw et la WWE sur tous les réseaux possibles, puisque en fait le match avait déjà été annoncé sur Twitter avant l'émission, donc c'était un peu bizarre. Bon, on va dire que c'était un segment d'intro pour planter le décor pour ceux qui sont devant leur télé et qui sont pas forcément sur le compte Twitter de la WWE, mais le match avait déjà été annoncé, Karl Anderson et Luke Gallows contre les Usos, avec les deux main eventers dans les corners, donc c'était un peu chelou de le rebooker comme ça, mais pourquoi pas. Sinon, sur le développement de manière générale, moi j'aime bien, en effet, comme tu dis, on arrive On arrive un peu en bout de course, à l'apogée des tensions. Roman Reigns ne se cache plus du tout maintenant pour insulter ouvertement et dire qu'il n'aime pas AJ Styles. Pareil, c'est réciproque. Au début, ils étaient là en train de se dire, ouais, je te respecte, machin, t'es balèze, je vais devoir faire de big fight pour te battre. En fait, non, maintenant, ils n'en ont plus rien à foutre. Lui, c'est un menteur, l'autre, c'est un connard. On ne s'aime pas, donc bon, ça ne marche pas trop mal. C'est juste. Moi, j'accroche toujours pas au micro, personnellement. Je trouve que le segment était un peu plat en ouverture. Par contre, sur le match, c'était bon. Bon, on l'avait déjà vu, mais ils réussissent quand même à nous proposer de nouvelles choses. Et ça marchait bien. Le finish est bon. AJ Styles devient un petit peu plus dark avec, comme tu dis, le défouloir là sur Roman Reigns. Donc ça boucle bien le
Ouais, ouais.
pay-per-view.
Un défouloir réciproque, hein, clairement, les
Ouais,
deux.
c'est réciproque, les deux s'aiment pas. Donc ça boucle bien le pay-per-view, on a un peu plus envie de les voir se foutre sur la gueule. Par contre, moi maintenant je me pose un peu la question de cet emplacement dans la carte. Ça fait plusieurs émissions qu'ils se payent le milieu de show et pas le main event. Je trouve ça un peu
Alors
bizarre.
là, ouais, juste pour apporter une petite précision, là, ce dont tu parles, là, c'est un sujet qui a été abordé un petit peu sur les forums des CDC. En fait, ce qu'il faut savoir notamment, c'est qu'en ce moment, il y a les playoffs de la NBA et que bah ça se joue visiblement la troisième heure du Raw. Bah, t'as les playoffs de la NBA qui sont en face, qui absorbent pas mal d'audience et c'est pas la première fois que les bookers.
Compris, compris.
Voilà, réarrange un petit peu l'ordre habituel
Okay.
du booking pour mettre les gros stars plutôt au début ou au milieu de show
Je vois.
pour capitaliser dessus. On pourrait dire qu'ils pourraient aussi prendre le risque de le mettre à la fin et
Je pense qu'il y a aussi, il y a aussi un rapport avec. Alors, il y a ces playoffs aussi. C'est, on va dire, c'est le comment, c'est la raison la plus logique économiquement, etc. Mais il y a aussi, je pense, le fait que ils essaient de mieux insérer Reigns dans le show et un peu moins. Pas le mettre dans l'ombre, mais le mettre un peu en milieu de show, à droite, à gauche, mais pas arrêter de faire tout le temps le main event, Roman Reigns contre quelqu'un, Roman Reigns, etc. Et puis sinon, juste pour parler du match, moi j'ai beaucoup aimé. Et surtout, j'aime vraiment comment les Usos, enfin je sais pas si vous avez trouvé vous aussi, je trouve les Usos un peu plus agressifs que d'habitude. Et surtout, on leur redonne de l'intérêt, quoi, parce que les Usos, c'était un petit peu la tag team gentille qu'on aimait poliment, quoi, qui faisait bien le boulot, mais qui passionnait personne. Et là, pour le coup, ils ont vraiment bien été insérés dans l'histoire. Un peu, enfin, la carte Uso a été utilisée un peu tard, je trouve, pour toutes les fois où Roman Reigns aurait pu comment se lier à eux, etc. Auparavant. Là, c'est parfait parce que d'un côté on a le club des amis, de l'autre le club de la famille. Donc non, ouais, le segment de fin, j'ai adoré comment ils se sont mis sur la gueule et puis le finish impressionnant de Styles, c'était un petit peu spot que tout le monde attendait et que sûrement tout le monde va attendre à Extreme Rules, le Styles Clash sur la chaise. Donc voilà, on a eu un avant-goût. Est-ce qu'ils arriveront à faire un truc plus impressionnant? On ne sait pas, mais ouais, j'ai vraiment bien aimé. Et puis bon, la séquence au micro, c'était moyen. C'était pas le pire que ce qui, c'était pas pire que ce qu'ils ont fait auparavant. C'était pas insupportable. Moi, ça m'allait tout ça. Donc ouais. Et je suis voilà, ça fait seulement depuis la semaine dernière que je suis vraiment intéressé finalement par la rivalité. Et peu importe, disons qu'il y a un moment où je suis tellement intéressé par une rivalité que le résultat final, tu vois, si Roman Reigns gagne, je trouverais ça limite logique. Alors qu'auparavant, il y a un mois, tu m'aurais
Apparemment,
dit,
c'est pas vécu, quoi.
ouais, il y a un mois, tu m'aurais dit, C'était
est-ce
tout sauf
que tu
ça.
veux que Roman
Ouais.
Reigns gagne? Je t'aurais dit non, non, surtout pas, faut arrêter. Et là, ouais, c'est ça, c'est en ça que c'est une réussite pour moi.
Donc, tu disais que tout le monde attendait le finish, le fameux Style Clash sur la chaise. Autre chose que les fans attendent, visiblement, c'est le fameux Fatal Four Way qui est annoncé pour Extreme Rules.
C'est roi de la transition.
Ouais, bah je sais, je vais faire bonne impression pour ma première fois en tant qu'animateur. Et, sauf que là, du coup, tu viens de la casser.
Désolé.
Et donc, lié à ça, une affiche entre Zayn et Cesaro. Parce que je crois qu'il y avait eu un match à SmackDown entre les deux, visiblement, et qui avait fini un peu en autre boudin, si je me souviens bien. Enfin, si je me souviens bien en même temps, je n'ai pas regardé le SmackDown, mais si je me souviens
Personne,
bien du
personne.
résumé que j'ai lu.
Personne n'a le
Bref,
temps.
toujours est-il que bah, donc Zayn et Cesaro rentrent sur le ring, évidemment. Le Miz et Kevin Owens ne sont pas loin, puisqu'ils sont invités aux commentaires ce soir. Évidemment, Kevin Owens provoque le Miz et inversement. On a droit à pas mal de punchlines bien placées. On commence à être habitué avec Kevin Owens. On a notamment eu le privilège d'entendre quelques répliques en français.
D'accord, non, je n'avais pas entendu moi.
Ouais, donc avec son gros
Ils ont
accent
parlé en français.
québécois. Bon, c'est toujours sympa. Évidemment, un début de bon match entre Sami Zayn et Cesaro. Des bonnes séquences, notamment Sami Zayn qui fait son fameux moonsault où en fait il s'apprête à sortir, à sauter sur les cordes et puis il revient en arrière. Pendant ce temps-là, lui, Cesaro allait se poser tranquillement sur les barricades. Donc on était un peu plus dans la démonstration. Kevin Owens et le Miz finissent par débarquer sur le ring. L'arbitre annule le match. On commence à être un peu habitué.
Ouais.
J'ai loupé quelque chose, Hank, que je
Non,
t'entends.
non, non, c'est juste pour dire la séquence. Moi, j'avais vraiment aimé ce passage parce que, en fait, la séquence, c'est Kevin Owens qui dit j'en ai plus rien à foutre de ce match et qui
Ouais.
se tire.
Ouais,
Et c'est à ce
exactement.
moment, juste au moment où il passe devant le Miz, il se retourne et il fonce sur lui pour lui en foutre plein la gueule. J'ai
Ah,
bien aimé ce.
ouais, bah là on voit très bien toute la science du spectacle de Kevin Owens qui crée à chaque fois des liens en fait entre les différentes séquences. Tout ce beau monde débarque donc sur le ring. Retentit la musique tant attendue de enfin tant connue de Shane McMahon. Qui débarque, donc les managers très impliqués dans cette storyline, qui en bon manager transforme évidemment ce match en tag team.
Tag team match!
Playa!
Ah non, mais c'est. Ça fait
Teddy
deux
Long
fois qu'il fait son.
style!
Mais il commence à avoir une petite influence Teddy Long. Hein. Il l'avait déjà fait ce
Ouais,
truc-là.
on sent qu'effectivement il a regardé les vieilles VHS Shane McMahon pour rattraper son tout le temps perdu. Donc le match est buildé, évidemment on a un build assez classique heel versus face, sauf que Stéphanie débarque, Stéphanie McMahon évidemment, qui veut en faire un peu plus que son frangin et qui propose finalement un alignement un peu différent. Elle regroupe Miz et Cesaro d'un côté, qui devront donc affronter Kevin Owens et Sami Zayn. Donc du coup le match prend une toute tournure avec cet alignement assez original. On voit clairement que Cesaro et The Miz ne s'entendent pas tout autant que Kevin Owens et Sami Zayn. Le Miz veut voler le spotlight à Cesaro, en tout cas il veut pas que Cesaro ait le spotlight, alors que Kevin Owens lui est plutôt du genre à embêter si je peux dire Sami Zayn. En le taguant pour que il entre alors que juste pour l'embêter quoi. On a quand même un gros match, même si tout est surtout mis en avant pour montrer les tensions qui peuvent régner entre ces quatre catcheurs. Là le match se termine sur le Miz qui tente d'exécuter le fameux Cesaro Swing. Sauf que Cesaro, bah, qui en a un petit peu ras-le-bol de cette starlette, va faire sa prise le Skull Crush finally sur le Miz, donc il lui vole sa prise à son tour, sauf qu'il la porte sur le Miz. Sami Zayn en profite pour placer son Hell of a Kick et fait le tomber victorieux. Évidemment, avant de se prendre un bon gros kick par Kevin Owens qui veut montrer évidemment que c'est lui le plus fort. Donc voilà, on a eu encore une grosse séquence autour du titre intercontinental hein, qui est vraiment soigné en termes de booking. Les managers sont impliqués, les catcheurs sur le ring sont des gros techniciens ou des gros entertainers. Je parle évidemment pour le Miz. Donc, est-ce que vous êtes toujours aussi hypé par cette affiche?
Bon bah moi je suis j'ai encore passé un super moment devant tout le segment et je trouve que c'est vraiment la feud et le match qui me donne le plus envie pour le pay-per-view et celle qui a été travaillée, je trouve, avec le plus de soin par les, aussi bien par les bookers que par les acteurs de la feutre. C'est vraiment du super travail. Et donc bon bah, je vais pas revenir sur les éléments, mais t'as tout résumé. Mais voilà, ce chassé-croisé est vraiment super plaisant à suivre. Owens, c'est clairement Owens et le Miz qui anime la feud du côté, on va dire, entertainment et parlotte avec leur jeu autour du ring, leur mimique de heel, que ce soit en commentaire ou dans le match. Et Cesaro et Zayn qui font leur rôle eux par contre de porter la feu dans le ring vis-à-vis du public pour enflammer le public et faire réagir la foule donc ça marche très très bien. J'ai beaucoup aimé la petite variante amenée par Stéphanie parce que c'est vrai qu'en fait Shane était reparti pour nous proposer un tag team très standard qui avait déjà eu lieu à SmackDown manifestement. Donc du coup elle débarque et elle dit non 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 on va changer les choses. Bon, alors c'était vachement bien vu parce que bah, Owen et Zayn se détestent, Miss Cesaro ont appris à se détester pendant le match. C'était surtout ça la seconde dimension intéressante du match parce que Owen et Zayn, on savait très bien qu'ils ne pouvaient pas se piffrer, ça fait 20 ans que ça dure. Mais Miss et Cesaro, il y a eu tout un jeu pendant le match pour bien montrer qu'eux non plus, ils ne s'aiment pas. Ils n'ont pas arrêté de se piquer des moves pendant tout le match. C'était un petit peu à toi, à moi, qui est-ce qui va en faire le plus? Et puis à la fin, tu dis, il lui prend le swing. Finalement, Cesaro lui met un skull crushing finale. Donc, c'est bien. Voilà. Gros bordel. Plein d'histoires. C'est surtout que ce qui est pas mal, c'est qu'en plus, après dimanche, après Extreme Rules, on va pouvoir repartir dans plein de directions possibles. Donc, c'est surtout ça qui est bien. C'est super ouvert. Il n'y a pas vraiment de favoris. Toutes les storylines derrière sont possibles. Donc, voilà, c'est juste plaisant à suivre. Les mecs jouent bien leur rôle et moi j'ai très très envie de voir ce match dimanche, ça va être mon préféré, je crois.
À peu près pareil. Ça se voit que c'est vraiment la storyline qui a été, je pense, écrite le plus en avance de tout ce qu'ils ont. C'est-à-dire que ça se voit, tout est bien combiné. Et moi, je pensais vraiment qu'ils allaient un peu passer Zayn et Owens au forcing dans le Fatal 4-Way, parce que finalement, ils ont déjà une rivalité entre eux, pourquoi rajouter ça dessus? Et oui, non, c'est vraiment c'est bien tourné. Je vois pas quel compliment rajouter là-dessus. Cesaro et le Miz ont vraiment une bonne alchimie aussi, tous les deux. Owens et Zayn sur le ring, tu vois que c'est pas, ils ont pas la même, comment? Ils ont pas la même façon en fait de faire du catch au sens non seulement la technique mais aussi la psychologie par rapport à tout le reste du roster parce que on voit qu'ils jouent, c'est presque, je vais pas dire du théâtre mais ils savent tellement comment montrer leur inimitié, enfin
Ouais.
bref, le fait que voilà, ils se prouvent
Déteste.
l'un après l'autre les choses et puis ils font pas ça juste avec des regards quoi, ils se font des petites phrases toutes les 2 secondes donc voilà le finish était plutôt cool. Il y a aussi Owens le truc que t'avais pas précisé mais bon c'est un petit truc mais donc à la fin Zayn qui se fait lever la main par l'arbitre pour sa victoire et c'est à ce moment-là qu'Owens l'attaque et Owens qui dit raboule-toi l'arbitre c'est moi
Ouais.
à qui tu dois lever la main etc. Bon il sait faire un enrobage, ouais, c'est pas juste une victoire. Et ils jouent tous très bien. Ils ont tous, je dirais que peut-être Zayn un peu moins, mais ils ont tous la panoplie du bon catcher. C'est-à-dire qu'ils sont bons dans le spectacle. Enfin, pour le coup, oui, Cesaro et le Miz, c'est un peu leur gimmick, quoi. Mais ils sont vraiment tous bons dans le spectacle et la psychologie. Donc ça promet énormément. C'est sûrement ouais, le match que j'attends le plus au niveau du spectacle. Après, au niveau du match en lui-même, je pense que j'attends ouais, au niveau du juste de la technique et des spots, etc. J'attends autant Reigns et AJ Styles parce que je suis persuadé que Reigns va sortir son meilleur match contre AJ Styles. Enfin, son meilleur match depuis le début de son règne.
Oh,
Alors tu parlais de grands spectacles avec les quatre qu'on avait sur le ring. Un autre qui veut définitivement faire du grand spectacle pour Extreme Rules, c'est Dean Ambrose, qui visiblement a beaucoup beaucoup d'idées, dont certaines n'ont pas vraiment été acceptées
Ça fourmille.
pour son match face à Brock Lesnar, qui était une montagne qui a un éléphant qui a accouché d'une souris. D'une montagne qui a accouché d'une souris, je ne sais plus l'expression, on s'en fout. Donc la séquence dont on va parler là, c'est évidemment.
Un gros truc qui a accouché d'un petit truc.
Ouais, comme dirait Giscal, un gros truc qui a accouché d'un petit truc. Il y a des
Voilà.
fois, pourquoi faire compliqué? Donc on se retrouve backstage, Chris Jericho qui parle avec Renee Young, qui se plaint encore de Dean Ambrose, comme quoi il lui a éventré sa belle veste à 15 000 dollars. Après avoir vérifié la semaine dernière, on s'est rendu compte qu'elle valait un peu plus quand même. Donc il ne demande qu'une chose, c'est que Ambrose s'excuse. Évidemment, donc Ambrose ne le fera pas,
Ce
puisqu'il
qui est
entre.
complètement nul, hein. Désolé de te couper, mais ce qui est complètement, c'est le truc,
De
le seul
demander des
truc
excuses.
vraiment neuf. Ouais, voilà. J'ai fait non, mais vraiment, il va demander des excuses, c'est débile. Mais bon.
Ouais, surtout que bon, le mec il est là depuis dans le business depuis 20 ans, il sait bien comment ça se termine, mais bon, que veux-tu, il a la grosse tête, voilà, il veut rabaisser à tout prix Dean Ambrose. Donc voilà, il veut lui demander des excuses. Je me demande même s'il veut pas récupérer les 15 000 dollars en plus, ou si, je ne sais plus.
Si, ouais, il demande ses 15 000 dollars et
Ouais,
des
donc
excuses.
les excuses et 15 000 dollars.
Ouais. Même s'il précise qu'il est millionnaire, mais il s'en
Ouais, il est
fout, il veut son argent quand
multimillionnaire,
même.
mais c'est quand même 15 000 dollars.
C'est une question de principe, c'est tout.
Dans un
Non, mais
sens, il a
merde.
raison, c'est presque un
Oui.
face sur ce coup.
Franchement.
Donc Dean Ambrose se retrouve dans l'arène, lui aussi visiblement il est là pour un petit peu se plaindre parce qu'il dit qu'il aime pas, il a pas aimé s'être retrouvé enfermé. Alors je crois qu'il parlait de camisole et qu'il avait été en prison, etc. Donc il aime pas trop se retrouver entre quatre murs et bloqué quoi. Donc il a quelque chose à dire à Chris Jericho. Donc Chris Jericho évidemment débarque, il veut pas lui parler, il veut ses fameuses excuses. Et évidemment Ambrose lui propose autre chose, c'est un match à Extreme Rules. Donc qu'accepte assez facilement Chris Jericho, il se donne vraiment plus beaucoup de peine pour ménager le suspense.
Mais il fait ça à chaque fois, hein. C'est magnifique, hein. Jericho, il s'est fait avoir par tout le monde.
Ouais,
Mais
c'est
à chaque fois,
la
quoi.
victime consentante un petit peu, c'est une relation un peu sadomaso qu'il
Qui
entretient.
c'était le dernier? C'était AJ Styles, je
Edge
pense.
Style, ouais. Il a
Mais
fait un
il
peu
lui
la
a fait
même.
exactement le même coup. Il a fait ah ouais! Et attends, je sais plus ce qu'il lui réclamait. Il lui réclamait sûrement autre chose, hein. Encore des excuses ou un truc comme ça. Et l'autre, il fait mais si tu étais contre moi au prochain pay-per-view, est-ce que ça t'irait? Elle fait d'accord.
Oui, bon,
J'avais
c'est
pas
comme ça,
prévu, mais ok.
forcément.
Ouais, dur en affaire, Chris Jericho, hein, visiblement.
C'est comme ça qu'il a gagné ses millions d'ailleurs.
Donc, il nous refait un peu le même coup. Il s'offre à nous, il fait sa petite pose de Jésus-Christ. C'est The Gift. Mais Ambrose, c'est plutôt Ambrose qui a visiblement une surprise pour Chris Jericho. Et tout d'un coup, dans une musique un petit peu angoissante, descend une cage. Et oui, descend. Alors, visiblement, il y avait une cage qui était accrochée au-dessus du ring depuis le début. Évidemment qu'on n'a pas vu, parce que le réalisateur, et non pas le monteur, dédicace à Bastoun, n'avait pas daigné nous la montrer. Donc la cage descend dans une musique angoissante, et on peut remarquer alors qu'elle est décorée d'objets assez étranges. Enfin, plus ou moins étranges. On a évidemment une camisole de force, on a différentes armes, toutes les armes que Dean Ambrose n'a pas eu l'occasion d'utiliser face à Brock Lesnar, alors qu'il nous les avait bien teasées. On peut
C'est
remarquer
ça.
également la petite plante Mitch, ou en tout cas une représentante de la plante Mitch. Alors ça, je l'avais pas forcément vu, mais c'est en faisant les vignettes pour le gauchomètre que je me suis rendu compte que si, il y avait bien une plante accrochée à la cage.
Une serpillière aussi.
Une serpillière. Bon bah voilà, je crois que hein, tout va y... je crois que le
Je
mec
crois que tout est dit.
il avait un bon d'achat de 50 euros à dépenser chez Castorama visiblement, et il a décoré la cage, et donc il annonce la tenue du premier tout premier Asylum match qui aura lieu à Extreme Rules, dont on ne connaît absolument pas la stipulation, même si à mon avis elle risque d'être assez proche d'autres types de matchs qu'on connaît déjà.
Ouais.
Donc il lui
Bon, ça va être
annonce que
tombé.
voilà, peut-être que Jericho est le meilleur dans ce qu'il fait, et dimanche, bah, ce qu'il va faire, c'est pleurer, gémir, et se geindre comme une petite fille, et hein, implorer Dean Ambrose, et qu'après, évidemment, il ne sera plus jamais le même.
Again.
Again. Je vous fais tout ça en français parce qu'on a une belle langue, donc autant en profiter.
You will never!
Qu'est-ce que
Donc,
ça
on
vous
va de la
inspire?
parole.
Visiblement, toi, Hank, ça t'a pas mal inspiré, là, cette séquence. Tu m'as l'air assez fan des
Désolé, ouais, je
Kujeri.
t'ai coupé 4 fois au moins, désolé.
Ouais, bah écoute, je te donne l'occasion de me couper vu que j'ai terminé.
Désolé. Non, j'ai trouvé ça marrant, j'ai bien aimé. Enfin, ils ont trouvé un truc pour nous donner envie de voir le 15e Ambrose Jericho. Donc, enfin, celui du 15e, ça doit être le 3e, mais. Donc ouais, pourquoi pas. Ça va être marrant. Le match, enfin, on s'en fout quoi du match. Mais le décor, le décor en soi, t'as envie de voir qu'est-ce qu'ils vont en faire, en espérant qu'ils en fassent vraiment quelque chose. Parce que si c'est pour foutre un coup de serpillière à la fin du match. Ou casser juste une plante sur la tête de l'autre, bon, ça va pas mener bien loin. Mais donc voilà. Et pour la stipulation, je vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre que tomber soumission, quoi. Parce qu'il n'y a pas de porte, donc y a pas, ils peuvent pas sortir par le toit. Tout est
Ils ont
fermé.
précisé qu'on pourrait pas s'échapper.
C'était marrant. Puis alors, en plus la séquence avec la musique années 80, film
Un vieux
d'horreur.
film Jason, Vendredi 13 ou...
Ouais, mais ça, t'avais vraiment l'impression de regarder la vieille. Enfin, moi, je regardais pas à l'époque. J'ai rattrapé depuis, mais je veux dire l'époque où il y avait vraiment des trucs kitschos, quoi, la WWE, des séquences où on te fait croire que voilà, tel mec sort d'une tombe ou tel, etc. Donc
Le mec dont
c'est
tu parles est toujours en activité.
oui, non mais l'Undertaker. Non mais je veux dire, il y a d'autres choses du même style. Des trucs un peu grossiers qui font un peu comment
Bon,
qui font
clairement,
un peu série A
on est dans le
série B
kitsch,
quoi.
quoi. On est dans le kitsch.
Mais bon, ça va bien avec Ambrose parce que finalement il a un côté un peu kitsch aussi. Ambrose a toujours
Donc toi, Giscal, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu es toujours fan de cette ambiance un
oui
peu kitsch?
toujours ouais toujours bon moi ça marche bien ça c'est le genre de truc que j'aime bien et je trouve que Hank a dit quelque chose enfin le truc le plus important du segment c'est qu'ils ont trouvé un prétexte pour nous donner envie de regarder le match dimanche parce que c'est vraiment enfin je pense que c'était ça le but et c'est ce qu'ils ont réussi à faire c'est de nous donner un prétexte d'allumer le network dimanche et de regarder le match parce que en soi Jericho Ambrose numéro 3 on s'en foutait un peu, ça commençait à tourner un peu en rond, et puis bah là, forcément, nouvelle stipulation, décor un peu foufou, et puis bah Ambrose, l'air sérieux qui dit que il va lui en foutre plein la tronche et qu'il sera plus jamais le même, machin, bah on se dit bon bah allez, on va aller voir Jericho se faire déglinguer dimanche dans l'asile, donc c'est bien joué. Et puis après, moi j'aime toujours ce mix un peu à mi-chemin entre le sérieux et le loufoque avec un Chris Jericho toujours en mode ultra, ultra mégalo, ultra, toujours dans l'excès, un peu, je sais pas comment dire, mais enfin, delusional, mais enfin, il est dans son monde, et en fait, il en est ridicule, et tout le monde rigole de ça, et je trouve qu'il joue bien ce personnage. Complètement exagéré et puis en face Ambrose lui donne bien la réplique donc bah voilà encore un segment sympa qui book bien un match pour dimanche c'est une tendance plutôt qui se dessine depuis le début de notre récap donc les matchs sont bien bookés et encore un que j'ai envie de voir dimanche avec impatience.
Alors du coup là on va enchaîner sur une séquence qui va pas du tout vous donner envie de regarder le pay-per-view dimanche puisqu'il s'agit de notre désormais célèbre séquence Jobber World, le monde magnifique des Jobbers. Donc on va essayer de faire très très court parce que la dernière fois on s'est un peu étendu sur le cas Baron Corbin, bah ça tombe bien puisque le type n'est tout simplement pas intervenu durant cet épisode de Raw, on n'a pas eu de nouvelles si c'était une petite vignette pour officialiser le troisième match entre Dolph Ziggler et Baron Corbin.
Ouais.
Donc ça c'est fait. Par contre, qui a débarqué, qui a profité d'un go home show pour faire son entrée là où toutes les plus grandes stars attendent le lendemain du pay-per-view? Évidemment, ce sont les Shining Stars, nos amis des Caraïbes, puis après nous avoir inondé de vignettes kitsch façon carte postale pour nous donner envie de goûter un peu de leur paradis caraïbéen. Primo et Epico débarquent enfin à Rho pour squasher des jobbers. Alors là c'est assez méta, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des jobbers qui squashent des jobbers locaux. Des jobbers de Porto Rico qui squashent des jobbers locaux.
J'espère juste qu'ils n'ont pas pris un choc thermique parce que d'être passé de Porto Rico à l'accueil glacial de la Caroline du Nord, franchement... les mecs sont rentrés dans un silence de cathédrale, c'était pourri. je vois pas pourquoi ça marcherait mieux sous cette limite.
On entendait le bruit des chasses d'eau, hein, plus que ce qui se passait sur le ring.
Clairement, ils ont fait des beaux moves, hein, mais ça ne marchera pas plus.
Attendez, on commence à donner un peu trop d'importance à cette séquence.
Croyez-vous. juste le seul truc que j'ai à dire, c'est qu'ils ont mis 6 mois à créer une gimmick qui est on renifle des fleurs avant le match. Ouais. C'est tout ça.
Ça marche.
Bon, un autre qui doit renifler des fleurs dans les toilettes, c'est Goldust, hein, puisque l'autre séquence Jobber on the Time est entièrement dédiée à notre chassé croisé entre Goldust, R-Truth, Fandango et Breeze. Alors, Goldust et R-Truth sont enfin ensemble. On a droit à une petite vidéo assez mignonne finalement. Ils sortent ensemble, voilà. Un peu façon mauvais soap opéra.
Bravo.
Ah bravo, ok, petit bruit de clap en arrière-plan. Façon soap opéra. Donc c'est la réconciliation entre les deux. Ce soir ils affrontaient donc Fandango et Breeze qui ont un nom de tag team qui est donc Breezango. Donc on avait Golden Truth qui affrontait Breezango.
Il a un déodorant. Enfin pas un déodorant, un shit pour les chiottes.
Oui bah des fois je connais certaines personnes qui utilisent le même pour les deux, à la fois pour le désodorisant et pour le déodorant. Donc victoire de Breezango.
Breezango, c'est ça.
Qui trouve et frappé par erreur Goldust.
Ils ont une bonne pop, hein. Le public a bien aimé, hein, Golden Truth.
Bah attends, regarde là comment on vient de ricaner comme des baleines.
Ça faisait des semaines qu'on attendait que ce couple se forme, ça y est, c'est fait.
Voilà. Mais je sais pas ce qu'ils ont fait pendant des semaines, pourquoi ils ont attendu 15 ans avant de le faire. Mais
parce qu'il fallait les faire se séparer avant qu'ils se retrouvent, mais tu comprends rien à l'amour.
Ouais.
Ouais. C'est ça, l'amour. Mais j'ai adoré. Alors ouais, pareil. Normalement, on commente pas. Mais j'ai adoré la vignette. La vignette avec les chansons genre Teenage, la BO de Dawson dessus, quoi. Ouais. C'est magique.
Donc Hank, tu es un spécialiste des films d'horreur des années 80, un spécialiste des séries ados des années 90.
Mauvais coup en général.
Je trouve le positif, c'est que au moins ils ont l'air de s'éclater. Donc je me dis que chaque semaine ils se font plaisir. Franchement, ils doivent prendre leur pied à faire ça.
Et sauf Tyler Breeze, hein. C'est bon, je pense pas qu'il est content. Mais bon.
S'il a du temps d'antenne, il t'inquiète. À mon avis, il est heureux comme un.
Franchement, je pense qu'ils sont contents.
Surtout, ouais, oui, t'inquiète pas pour lui. Une autre qui est contente, c'est Dana Brooke. Parce que Dana Brooke, sa copine Emma, elle s'est pété le troisième disque de la cinquième vertèbre du dos pendant un putain de house show. Les gars, va falloir arrêter la house show parce que ça envoie tout le monde à l'infirmerie. Donc Dana Brooke, la enforcer de Emma, affrontait aujourd'hui Becky Lynch.
Parce que Becky on est sorti du Jobber's World là.
Ouais, mais ça les gens s'en rendront compte parce que la musique.
Non, mais attends, Becky Lynch elle se fait déjà bizuter toutes les semaines. Si en plus on la met dans le Jobber's World, ça va.
Bizuter par catch-up. Non, évidemment, nous sommes sortis de l'instant Jobber. Enfin, je pense, on verra si je laisserai la musique ou pas. Dana Brooke nous fait une superbe pirouette là d'entrée, hein, c'est pas mal, elle est assez souple pour ce genre de gabarit, c'est assez original. Donc on se retrouve avec donc un match entre les deux qui était, ça vous donnerait votre avis, mais qui était assez moyen. Et juste pour faire plaisir à Hank, Dana Brooke, victoire de Dana Brooke sur un roll-up.
Ça me fait pas forcément plaisir, mais
j'étais un petit peu, on va dire, ironique, je pense.
D'accord. Non, mais parce que la semaine dernière, j'étais tout content qu'on la voie. Mais j'étais content qu'on la voie, mais backstage, pas forcément dans un ring. J'ai pas aimé comment ils ont géré ça. ils ont géré sans gérer parce que la blessure d'Emma. Je comprends pas où ils amènent Becky Lynch, elle se fait battre tout le temps. Avant c'était par tricherie, maintenant il y en a sans tricherie. Donc Dana Brooke, c'est enfin franchement j'ai vu des trucs botchés dans le match, j'ai fait oh là là. C'est chaud, enfin elle est pas prête hein, je pense. Donc elle serait beaucoup mieux à passer encore quelques mois, au minimum quelques semaines en soutien de Emma, mais bon, vu qu'elle ouais. est plus là. Après je vois pas vraiment ce qu'ils auraient pu faire de, enfin si ce qu'ils auraient pu faire de mieux, c'est de faire gagner Becky Lynch, parce que Becky Lynch elle était à deux doigts du titre il y a quelques temps. Donc c'est pas une jobbeuse non plus, c'est que qu'elle se fasse battre comme ça par Dana Brooke, le premier match de Dana Brooke, et me dites pas qu'ils vont pusher Dana Brooke par la suite. Donc voilà, je trouve ça dommage, ça diminue un peu l'envergure de Becky Lynch, finalement, ça elle est en train, ils sont en train un petit peu de l'enterrer, et je trouve ça dommage.
Et toi, Giscard, alors, que penses-tu de tout ça? Est-ce que la WWE a bien réagi suite à l'accident de Emma?
Eh ben écoute, je vais pas dire que je m'en fous, parce que c'est pas poli, mais ce segment, on a touché une sans faire bouger l'autre. Franchement, je savais pas qui c'était, cette nana-là, Dana Brooke, je l'ai trouvée nulle. Je l'ai trouvé pourri dans le ring et je trouve ça un peu dommage parce que ça doit pas être si évident que ça quand même de faire des mauvais matchs avec Becky Lynch. Donc du coup, c'est pas très bon signe. Puis ouais, j'ai pas accroché. Pour l'instant, j'ai pas trop d'avis sur la question, si ce n'est qu'en effet, comme Hank, je trouve ça très dommage d'avoir fait perdre Becky Lynch contre cette nana qui ne m'inspire absolument pas confiance. C'est le genre de truc où je suis partagé parce qu'on se dit toujours, finalement, c'est positif d'avoir du temps d'antenne, même si c'est pour juste pour être là et avoir un match. Et puis il y a des moments où on se dit quand même qu'on ferait mieux de la garder au chaud et d'attendre qu'il se passe un truc de mieux pour elle, parce que là, Becky Lynch, la pauvre, je suis pas sûr qu'on lui fasse beaucoup de bien avec ce genre de petit segment perdu dans l'euro, quoi.
Bon, visiblement, tu nous dis que ça t'en a touché une sans faire bouger l'autre. Ça nous rassure, au moins, c'est-à-dire que t'en as deux.
Oui.
Dès qu'ils sont deux, c'est les Dudley.
Oh là là, oh là là.
Et on les a pas travaillés, hein.
Non, c'est de l'impro total. Les Dudley débarquent et annoncent qu'eux font partie, c'est des anciens qui connaissent le métier, donnez-nous quelques petits jobbers, quelques mecs à monter, on va leur donner une petite leçon à l'ancienne. Donnez-nous deux petits gars et puis on va vous les mater, on va vous les former. Sauf que évidemment c'est Big Cass qui s'y colle et les Dudley auront donc à choisir qui des deux frangins devra aller se casser les dents sur le grand type.
The Big Guy. Désolé, je peux pas m'empêcher les blagues sur Ryback.
Non, mais Ryback, tu vois bien que Ryback est encore en train d'envoyer les fiches de paye à tout le roster, donc laisse-le tranquille. Donc évidemment, c'est Devon qui se retrouve sur le ring, qui se fait littéralement bouffer par Big Cass. Hein, je pense qu'on aurait pu presque mettre cette séquence dans le Jobber Time. Big Cass qui évidemment nous fait partager un petit peu quelques segments micro assez sympathiques, où il annonce que Devon est le Steve Urkel de la bande du ring, avec quelques petites imitations bien placées. Et que Bubba Ray, une sorte de Flintstone, enfin que son frangin pierre à feu va bien, il n'y a pas de souci. Et donc il va les renvoyer à l'âge de pierre. Donc voilà, on s'est retrouvé avec un squash match. Oh là, il y a quelqu'un qui est en train de regarder visiblement un bon vieux Divix.
Pardon.
C'était le bruitage.
Non, mais le
bruitage
mec,
du squash match.
Le mec se fait les pattes et mate la télé en même temps qu'il fait le podcast, quoi. Donc.
Et un petit bug.
Donc, Giscal, est-ce que t'as bugué, toi, sur cette séquence?
Ça m'a pas trop captivé. Mais par contre, j'aime bien sur le principe. Je trouvais que c'était bien. Et depuis la blessure de Enzo Amore, j'aime assez le fait de garder Big Cass à l'écran régulièrement dans des segments plutôt... important, même si bon là ça m'a pas trop intéressé, mais c'est quand même des segments généralement à des endroits assez importants. Il a eu un quasi main event à avorter la dernière fois, là il est encore en fin de show, on va dire en troisième tiers, mais et à chaque fois on le met en valeur, on le présente comme costaud, on lui fait lâcher sa petite gimmick pour le public. Donc on le garde dans les esprits de tout le monde. On garde l'équipe du coup par la même occasion dans les esprits du public. Donc je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est habilement géré cette blessure pour l'instant et c'est plutôt habile. Après sur le segment en tant que tel, bon, voilà, c'est gentil. Mais je trouve que l'esprit derrière c'est intéressant et il faut qu'il continue comme ça jusqu'à ce qu'il revienne le petit.
Non mais ouais c'était sympathique. J'ai pas moi j'ai pas adoré sa promo Big Cass. J'ai trouvé ça un peu moins bien que les semaines dernières. Mais
Ouais, c'est vrai.
il passe le temps en attendant que Amore revienne. Donc moi j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Il y a pas c'était moyen, c'était pas excellent, c'était pas horrible. Bon, plus que
Ok.
ça.
Une autre équipe, tiens, qui s'occupe un petit peu en attendant que ça se passe, c'est les New Day. Parce que bon, voilà, on peut pas dire qu'ils soient beaucoup mis en danger les New Day depuis plusieurs semaines. Avec la tenue du tournoi qui a duré, qui s'est étalé pas mal. Donc à Extreme Rules, évidemment, ils ont un match contre les Vaudevillains. Donc ils ont eu leur petite séquence habituelle le lundi de pastilles humoristiques, tendance geek habituelle. Donc cette fois-ci, ils nous ont fait le coup de la machine à voyager dans le temps. Donc ils avaient apporté sur le ring une grosse boîte, en tout cas qui était cachée sous un drap et ils l'ont dévoilé, c'était une sorte de machine à voyager dans le temps. Bon, c'était pas une DeLorean, contrairement à ce qu'a voulu nous faire croire l'un des New Day. Donc on a eu pas mal de vannes, évidemment, pendant cette séquence. Donc on a les New Day qui montent dans la machine à voyager dans le temps. Leur objectif, c'est de retourner dans la fameuse Bygones Era, donc c'est-à-dire l'époque un petit peu trop lointaine à leur goût des vaudevillains. Évidemment, la machine à voyager dans le temps déraille un petit peu. Kofi Kingston qui sort de la machine à voyager dans le temps sur son ancien générique et qui commence à nous faire ses anciennes promos de Jamaïcain, parce qu'effectivement, Kofi Kingston, avant d'être Ghanéen, il était Jamaïcain. Donc tout le monde retourne dans la machine à voyager dans le temps. Cette fois-ci, on arrive bien en 1889. Donc ils sont affublés de petites moustaches. L'image passe en noir et blanc grâce au fameux réalisateur et non pas au monteur de la WWE. Évidemment, vexés, les vaudevillains débarquent et ils détruisent à la fois les New Day et la machine à voyager dans le temps. Parce que bah, les mecs sont pas contents. Hank, est-ce que toi, cette séquence t'a fait voyager?
Et c'est là qu'on se rend compte que la machine n'était qu'un gros carton arnaque.
Eh oui.
Ouais, non, mais c'était marrant. Le passage qui était vraiment marrant pour moi, ouais, c'était Kofi qui sort avec sa musique c'était trop marrant. Et puis au moment où on le reprend, enfin il le ramène dans la machine, il fait non, je sais plus, je crois que c'était l'année 2000, un truc comme ça. L'année 2000 était ma meilleure année.
Donc Hank, spécialiste des films d'horreur des années 80, des séries ados des années 90 et du catch des années 2000.
Donc du coup bref la séquence était plutôt marrante mais j'attends de voir tiens si les vaudevillains arrivent à monter un peu leur niveau parce que ils m'ont jamais impressionné plus que ça ni à NXT ni depuis qu'ils sont à WWE et ils sont capables de faire des matchs corrects contre des très bonnes tag teams donc voilà c'est tout.
Giscard,
il est parti faire des
visiblement,
pattes.
était emporté par
Oh, pas
une faille spatio-temporelle.
Ah non, mais mon micro était coupé! Parce que j'arrêtais pas de renifler, alors c'est pour ça que j'ai coupé.
Bah écoute, fais bien ce que tu veux.
Bah non, mais moi je disais donc, quand je parlais seul du coup, que bah, moi ils me font beaucoup rire. Ils me font beaucoup rire. J'ai encore passé un bon moment. Ils trouvent le moyen sur une rivalité. Qui semble être une rivalité plus de transition à nous faire marrer et à nous donner quand même un petit peu envie aussi de voir la suite avec des segments complètement barrés. Donc là, c'était la new DeLorean Time Machine là qui nous ont sorti. Bah, c'était drôle, voilà le coup de Kofi Kingston de réentendre son ancien son ancienne musique d'entrée avec son accent jamaïcain. Vos pourris, les moustaches ensuite derrière avec l'écran noir et blanc. Enfin, du coup, je sais pas ce que ça donnait en live, mais en tout cas derrière la télé avec tous les petits effets et tout, c'était super drôle. Et puis après voilà, les méchants qui arrivent, qui foutent sur la gueule des gentils, ça part en sucette. Et puis bah on réglera ça dimanche quoi.
certains ont trouvé peut-être cette séquence un petit peu ridicule, mais dans cet épisode de Raw, il y a eu pas mal d'autres choses un petit peu ridicules, donc c'est l'heure de notre séquence Nawak. Donc voilà, j'ai noté trois faits un peu Nawak durant cet épisode de Raw. Évidemment, c'est la pastille que je pense va devenir qui va, je pense, devenir hebdomadaire. C'est la pastille Make Darren Young Great Again.
Oh non, stop, stop, arrêtez, arrêtez tout de suite ça, quoi. Stop.
Donc, avec son life manager, c'est bien ça, ou life coach en tout cas, Bob
Son
Backlund,
life coach.
ouais, qui lui demande quelle heure il est, et là, donc Darren sort son smartphone, voilà, il y a effectivement là, il y a le clash des générations. Voilà, donc Darren Young revient packagé, attention, ça va être du solide. Une autre séquence Nawak, c'était Shane qui, justement, au moment de booker le match avec impliquant Big Cass et Dudley, je sais pas si vous avez noté, mais à la fin, il sort à sa sœur, How you doing? Sur
Oui,
un air un petit peu étrange, en sachant qu'en général, How you doing, la façon dont c'est dit par Big Cass, et on va dire même de. Enfin voilà, c'était plutôt du genre en mode dragouille. Donc Shane qui fait de la drague à sa frangine, un peu spé. Et
ouais,
enfin,
mais il y avait, je sais
vas-y.
pas si t'avais vu, mais la semaine dernière, il y avait une séquence un peu pareille où, genre, je sais plus, ils ont fait un petit échange et à la fin, ils se font un regard tendre, mais c'est un peu hasard.
Les liaisons dangereuses. On va
Non,
partir
mais bon,
sur
après, c'est peut-être. Ils en font pas exprès. Hein. De toute façon, ils vont pas. Enfin, c'est plus les années 90, quoi. Ils vont pas faire une storyline incestueuse non plus. Mais bon.
Le mec qui a peur. Enfin, troisième pastille, c'est tout simplement la vidéo qui annonce le retour de John Cena dans 2 semaines. Et ouais, John
Ah.
Cena de retour dans 2 semaines, soit d'après mes savants calculs.
Ah, j'ai hâte.
Une semaine après Extreme Rules, visiblement, si je dis pas de bêtises, ce n'est même pas le lundi après Extreme Rules, mais ce sera le lundi d'après.
C'est ça.
Big match, John! Yes!
Voilà, visiblement, la WWE a un petit peu arrêté les retours surprises, hein, parce que c'est ni le premier ni le dernier dont on apprend le retour, soit directement en TV ou alors via les fameux réseaux sociaux sur lesquels Giscal passe beaucoup de temps, visiblement.
Ah ben ouais, je suis abonné à tout ce que John Cena a d'ouvert sur Internet.
Donc là, Giscal, j'imagine que ça là, pour la peine, ça t'a touché les deux
Ah bah là, ça m'a touché les cinq même,
et.
parce qu'en fait, je vous ai pas tout dit. Mais... Non, mais ouais, bah là, c'est la folie. Je n'attends qu'une chose, c'est qu'il revienne pour qu'il puisse se confronter à Roman Reigns qui va sortir triomphant et faire d'Extreme Rules et faire un match de folie. Champion
Bon,
versus
n'en dis pas plus
bah,
parce
champ.
que j'aurais une petite question justement concernant John Cena à la fin de ce numéro.
D'accord.
Donc,
Ok.
John Cena qui était un très très fier porteur du titre US, hein, qui a redoré un peu le blason de la ceinture. Justement, on va parler de la storyline autour de l'US Championship, à savoir que ce soir on avait un match opposant Kalisto, donc le tenant du titre, à son compatriote Del Rio. Donc les deux qui se connaissent bien, hein, c'est les Mexicains, on est à WWE, voilà, c'est la même famille tout ça, hein, donc ils s'aiment, ils se
Ouais.
détestent automatiquement.
Ce sont les Mexicains, c'est tous des frères,
C'est ça.
hein, des voleurs et tout ça.
Donc on a
Joueur de
voilà un
poule.
match où Del Rio a fait jouer vachement sa technique, sa brutalité habituelle face voilà au bondissant virevoltant
Oh.
Kalisto. Ce qui est intéressant en ce moment-là, c'est que backstage, on a une séquence où Rusev, évidemment, s'attaque à qui? À Sin Cara, qui le traîne jusqu'aux abords du ring. Del Rio force Kalisto à assister au douloureux spectacle. Pour une raison que j'ignore, il lui mange un bout de son masque. Alors je sais que Del Rio, sa passion, c'est de tenter de démasquer tous les luchadors, mais là, carrément, enfin, le mec, il a bouffé le masque de Kalisto, visiblement il a pas assez à manger avec Paige. Donc le public réclame Lana à corps et à cri, ça fait plaisir parce qu'on retrouve vraiment une Lana un peu des vieux jours, comme on disait la semaine dernière. Donc Rusev amène Sin Cara à ringside, il tourmente un peu Kalisto, Del Rio en profite pour placer un backstabber et remporte la mise. Et Rusev vient en rajouter une petite couche derrière, il exécute Kalisto d'un sacré coup de pied dans la nuque. Je sais pas si vous avez bien vu la séquence, mais c'est assez impressionnant. Avant de lui
Ouais.
appliquer, alors là, sa prise de soumission, là, il l'a tordu, mais dans tous les sens.
Pas sûr qu'il ait une colonne vertébrale, ce mec, en fait.
Ouais, je pense non plus.
Je sais pas comment on arrive à un angle comme ça.
Est-ce que vous êtes content de
Le corps de
revoir
Kalisto, ah là, quelle passion. Mais
Rousseff dans la title picture?
Content, content qu'ils arrêtent de faire passer Rousseff pour un con. Tu vois, mais j'étais vraiment pas content de la semaine dernière où il y avait une intervention de Kalisto en mode heel pour faire perdre Rousseff. Je trouvais que c'était ça avait aucun sens. Et puis en plus, voilà, Rousseff, c'est lui qui a besoin d'être buildé quoi, ces derniers temps, parce qu'il sort quand même de la League of Urination. Donc voilà. C'est cool. Et puis Rousseff qui revient avec des coups impressionnants. Et maintenant, il refait peur, et tant mieux. Et voilà. On veut de la brutalité à Extreme Rules.
Et toi, alors,
C'est tout.
Giscal, est-ce que t'as peur?
Je suis un peu mi-figue, mi-raisin sur ce segment et sur cette rivalité. Enfin, le titre US, je trouve, n'est pas très. Enfin, en tout cas, tout à l'heure, on disait que John Cena avait tout fait pour redonner du lustre au titre US. Bon, bah, on peut dire qu'il s'est un peu terni ce lustre depuis quelques semaines, parce que je sais pas, je trouve que c'est moyen. Kalisto n'a pas encore, je sais pas, l'aura d'un vrai champion, d'un vrai champion à la WWE. Rousseff et Del Rio sont encore pour moi trop endommagés à mes yeux du passage catastrophique de la League of Nations. J'ai encore du mal à les voir comme des menaces crédibles ou est-ce que j'ai même tout simplement j'ai du mal à vraiment avoir envie de les voir à la télé encore pour le moment. Même si je pense que le but du segment c'était ça aussi, hein, c'était de les rétablir comme des gros méchants qui font peur. Mais pour le moment. Voilà, Rousseff, Del Rio, je suis un peu moyen, moyen chaud. Puis bon, bah voilà. Et puis après, le fait de faire perdre le champion comme ça, juste avant le pay-per-view, je suis pas super fan. En fait, on a un peu l'impression qu'on arrive au pay-per-view avec personne de très très chaud, quoi. Le champion vient de perdre. Del Rio, bon, bah, de toute façon, bah, il sera pas au pay-per-view, mais enfin, voilà, Rousseff, il nous a fait ses conneries, là, à tabasser le pote Sin Cara en backstage, mais. Donc voilà, on arrive à un match dimanche avec deux losers qui vont s'affronter. Et puis en plus, enfin, je sais pas, voilà, moi j'ai pas été passionné et c'était pas la meilleure façon de me donner envie, je trouve, de regarder tout ça dimanche.
De toute façon, Kalisto, il a le double problème du petit Mexicain, c'est-à-dire que il est petit, donc du coup ses matchs sont compliqués à gérer contre la majorité du roster. Et deuxième souci, c'est qu'il peut pas faire de promo, quoi. Il peut sortir que
Non,
trois mots, donc.
ouais, donc
Bon,
c'est compliqué. Ouais.
qu'on les renvoie un peu en tag team, quoi, finalement, peut-être, tous les
Je
deux,
sais pas
si Cara et
forcément,
Kalisto.
mais en tout cas, ça fait peu inspiré, quoi, parce que Kalisto-Rousseff, on est parti pour une redite de Kalisto-Ryback, qui c'était cool, hein. Kalisto-Ryback, moi j'avais beaucoup aimé les trois matchs qu'ils ont eu, je trouvais qu'ils avaient une bonne alchimie, ça marchait bien. Mais par contre, on peut peut-être changer de registre, peut-être proposer autre chose, quoi. Donc,
Je crois qu'on n'aura jamais autant parlé de Ryback que depuis qu'il est parti.
The big guy!
Bon, bah j'espère qu'il y a une autre affiche qui va peut-être te passionner. C'est l'affiche des filles, Giscard. Toi qui aimes
Ah,
les filles.
j'adore, j'adore les femmes.
Toi qui aimes les filles et qui en a 5. Pas des filles, hein, mais. Donc, oui, effectivement, surprenant, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est les filles qui ont clôturé cet épisode de Raw. Avec la signature du contrat, et oui, une célèbre séquence à la WWE qu'on ressort de temps en temps pour les matchs. Alors pourquoi cette fois-ci? Tout simplement peut-être parce que dans ce contrat il y a beaucoup beaucoup de stipulations pour ce match. Donc Stéphanie et Shane McMahon sont évidemment sur le ring pour contrôler tout ça. Ric Flair arrive pour faire lui-même l'introduction de Charlotte. Puis Shane s'occupe de l'introduction de Natalia. Donc on a Natalia qui programme qu'elle voilà, qui reproche un peu à Charlotte de d'avoir changé, etc. C'est plus la même qu'à NXT, elle était différente, etc. Qu'elle avait perdu contre elle, mais qu'en grosso modo elle était contente d'avoir perdu contre Charlotte. Parce que bah à cette époque-là, elle était forte. Bon bah ma grande, si je
Pourquoi
puis dire, attends-toi à refaire la même. Charlotte, elle, évidemment, est sur son trône, hein, en mode c'est moi la déesse vivante. Vous avez deux légendes sur ce ring en pointant son père et elle-même. Donc en mode flair jusqu'au bout des ongles, c'est génétique. Visiblement, Natalia signe son trône chigné. Elle, Charlotte, il y a un truc qui l'a fait tiquer visiblement sur le contrat. Pour une fois, quelqu'un lit le contrat vraiment jusqu'au bout, visiblement, elle s'est fait chier à bien lire les toutes petites lignes qu'il y avait en bas du contrat. Et visiblement, Shane McMahon et Stéphanie ont rajouté une petite stipulation supplémentaire, c'est que comme vous le savez, Ric Flair n'aura pas le droit d'être aux abords du ring à Extreme Rules lors du match à soumission qui va opposer Natalia et Charlotte. Mais
match à soumission.
match soumission. Mais
Ça, j'aime.
également, si il venait à ne pas respecter cet engagement, en tout cas cette règle, Charlotte perdrait automatiquement et donc serait dépossédée de son titre. Personne n'est content du côté de la famille Flair. Shane McMahon fait intervenir la sécurité pour se débarrasser de Ric Flair qui n'est pas le bienvenu. Car il indique également que si Charlotte ne signe pas, elle sera également dépossédée de son titre. Donc voilà, c'est vraiment signe
Et
ce
hop
con
là.
on signe tu signes ce contrat avec un flingue sur la tempe. Alors, je sais pas
Ouais.
trop si c'est légal tout ça, mais bon, hein,
C'est pas grave.
on est les McMahon, on n'est pas les McMahon.
Mais non, mais tu comprends pas, les GM, ils sont face.
Donc c'est normal.
Donc on a à ce moment-là Ric Flair qui ne fait une Ric Flair, c'est-à-dire qu'il veut s'en prendre à une femme.
Génial ça.
Donc il veut s'en prendre à Stéphanie, il lâche la veste, effectivement il remonte les manches, etc. Mais Shane essaie de calmer les choses. Il lui dit qu'il a beaucoup de respect pour lui, etc. C'est le business qui veut ça, mais enfin, il n'en a pas après lui personnellement, et qu'il a trop de respect pour lui pour bah, lui en coller une. Stéphanie s'insère entre les deux et lui dit qu'elle, bah, du respect pour Ric Flair, elle n'en a pas. Bon, bah, les historiens de la WWE auront peut-être tiqué là-dessus, mais toujours est-il qu'elle lui met une sacrée claque. Et Ric Flair fait. Bah là c'est Hollywood quoi, le mec rebondit je ne sais pas combien de fois sur le ring au moment de l'impact. Et Natalia,
Toc toc badaboum.
puisqu'il n'y a que des faces hein, sur ce ring dans cette storyline, Natalia en profite pour placer son Star Trooper donc sur un vieux.
Non, c'est sur Charlotte
Non.
qu'elle fait le star.
Le mec
Le
il est placé.
sharpshooter plutôt.
Donc
De toute façon, elle
évidemment.
sait faire que ça. Hein.
Bon, donc visiblement, rien que toi, Natalia versus Charlotte.
Bah ouais, bah, parce que y a que la moitié y a que la moitié Charlotte qui m'intéresse. C'était une bonne séquence jusqu'à la fin en fait, jusqu'à genre la claque de Stéphanie et après bon ça il restait qu'une minute après, mais
Oui.
juste le sharpshooter, franchement c'est bon quoi, c'est on en a. Puis en plus à chaque fois elle prend son petit sourire genre ah je lui fais la leçon, c'est oh là là c'est
Ouais, en
insupportable.
brandissant la ceinture, parce qu'évidemment elle en profite pour piquer la ceinture.
Et Charlotte était vraiment bien hein, au début j'ai trouvé
Ouais.
avec le public avec j'ai l'impression qu'elle était beaucoup plus libérée au début. Elle parlait vraiment. On n'avait pas l'impression de la même. Enfin, la Charlotte d'il y a quelques semaines qui était très. Je sors telle phrase, c'est bon, je l'ai sortie. Je sors telle autre phrase et tout. Là, elle était un peu plus libre et puis voilà. Une bonne heel, bien contente de sa dynastie. Ce qui est marrant, c'est qu'elle est dans la réalité, quand on l'entend en interview là dans le Table for Free avec Natalia justement, elle arrête pas de répéter que ça la fait chier qu'on lui rappelle Ric Flair, etc., qu'elle aimerait se distancer et tout ça, et puis il lui l'oblige à faire exactement le contraire. Mais bon, donc ouais, c'était très bien jusqu'à ce que Natalia parle, et c'est pareil. En fait,
Tu ne l'aimes
tout ce
pas.
qui est, tout ce qui est bon dans ce segment ne concerne pas Natalia. Dès qu'on passe sur. C'est pas que je l'aime pas, elle. Enfin, je suis persuadé que c'est une bonne catcheuse, malgré le fait que je sais pas si on lui limite son moveset ou alors si elle est pas inspirée en ce moment, mais voilà, je l'ai déjà vu faire des bons matchs. Et le truc, c'est qu'elle a rien à dire, quoi. Elle dit la même chose depuis 3 semaines. Elle lui fait la leçon. Elle est limite énervante, finalement. Enfin, je vois pas comment quelqu'un peut être derrière Natalia, à part des enfants, peut-être. Mais sinon, elle est vraiment, elle est limite plus agaçante, finalement, que Charlotte dans cette rivalité. Mais voilà, le match, j'en attends pas grand-chose parce que leur rencontre, finalement, était décevante. Donc voilà, j'espère juste que enfin, c'est quasiment sûr, mais que Charlotte garde son titre et puis qu'à la fin on voit Sasha Banks ou alors en surprise Paige qui vient lui dire attention, je suis la prochaine à te rafler le titre. Donc voilà, j'attends que cette storyline soit vraiment terminée.
Bah moi j'attends aussi qu'on passe à autre chose quand même, mine de rien, parce que je suis pas spécialement fan de la rivalité. C'est assez paradoxal ce segment de Main Event, parce que je pense que, enfin, j'ai adoré le segment, je me suis trop marré, et pourtant ça m'a pas donné plus envie de voir le match. Donc c'est un peu particulier, parce qu'au final je ressors pas spécialement hypé ou chaud pour le match de dimanche et pour la rivalité dans son ensemble. D'ailleurs, j'ai pas vraiment de parti pris. C'est vrai qu'on me donne pas spécialement de prétexte d'être derrière Natalia. On donne des prétextes pour ne pas être derrière Charlotte, parce que voilà, c'est la méchante, et elle joue plutôt bien son rôle avec son père pour se faire détester et tout. Mais Natalia n'est pas spécialement sympathique, je suis assez d'accord. Ça tombe un peu à plat au niveau de la rivalité en tant que telle. Après, moi, sur le segment, je me suis éclaté de bout en bout. J'ai trouvé ça trop drôle. Déjà, exceptionnel quand même. IRM, tu l'as dit, mais c'est la première fois dans l'histoire des segments, je pense, de signature de contrat, que quelqu'un lit le putain de contrat. C'est quand même.
Ou en tout cas, ne fait pas semblant de le lire.
Non, mais genre, au moins, il y en a pas. Genre, ils te signent pas direct sans regarder, quoi. Ils lisent ce qu'ils signent. C'est quand même important. Dans la vie, c'est important de lire.
Ouais, mais alors, je veux dire, juste pour Brock Lesnar, lui, il sait pas lire, donc c'est
Ouais,
pas.
lui, non, mais bon, lui, à la limite, on peut dire qu'il a l'avocat qui a déjà regardé le
C'est
contrat
ça, il est bien
avant et
entouré.
tout, tu vois. Genre, mais.
Ouais.
Non, mais bon, là, voilà. Donc là, déjà, ça, c'était trop drôle. J'ai trouvé ça trop cool qu'elle lise et tout. Et puis, bah, après, Ric Flair était en feu, là. Franchement, il était trop marrant. Moi, quand il se met en mode rampage, là, et qu'il enlève sa veste et qu'il pète un câble et tout, mais c'était trop drôle. En fait, de toute façon, Ric Flair, tant qu'il parle pas, il est juste exceptionnel. Faut juste pas qu'il prenne le micro, parce que c'est fini. Pour lui, on comprend plus rien. Mais par contre, dans son acting, et dans ses mimiques, il est juste trop drôle. Et puis bah voilà, donc une bonne petite signature de contrat, bizarre, segment de main event, parce qu'au final, je trouve que voilà, ça tombe quand même un petit peu à plat. Donc c'est bizarre que ce soit un main event, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, moi j'ai beaucoup rigolé, mais je reste en effet un peu en retrait, et sur ma faim, sur la rivalité en tant que telle. Je suis un peu comme Hank, j'ai hâte qu'on passe à autre chose, parce que je dirais pas que Charlotte, enfin que Natalia a été un fardeau et ralenti la progression de Charlotte. Je pense pas, parce que je pense que, enfin, je l'avais dit au tout début de la rivalité, quand on avait annoncé les matchs, je pense que Natalia est quand même une bonne adversaire à mettre face à une championne assez jeune, parce que techniquement, elle a l'expérience, elle peut mener les matchs et tout, donc c'est pas trop mal. Même si on pourra me rétorquer qu'elles ont quand même pas fait des matchs exceptionnels, donc ça, c'est pas super concluant. Attendons de voir dimanche quand même. Je pense pas que ce soit non plus un échec total, mais c'est vrai que bon, ils auraient peut-être pu faire mieux comme rivalité de transition, puisque, enfin, de toute façon, on sait que c'est une rivalité de transition. Je pense que ça, personne ne doute du fait que Charlotte conserve son titre dimanche, et que les plans sont clairement d'attendre au moins le retour de Sasha Banks, je pense.
Bon bah en tout cas, c'est sur cette signature de contrat que cette séquence que s'est terminée cet épisode de Raw. Donc on va arriver à la traditionnelle note attribuée par l'équipe à l'épisode de Raw. Alors moi je vais donner la note de 3,25. Ce que j'ai aimé, bah, c'est tout simplement que bah, ça a validé certaines affiches, notamment le match intercontinental, où ils ont réussi malgré tout à nous créer bah, un bon match avec. En faisant toujours monter un petit peu plus la tension, en montrant bien que bah dimanche les quatre sont, il n'y aura aucun qui sera copain, ils seront tous ennemis. La petite stipulation rajoutée au dernier moment pour le match Dean Ambrose et Chris Jericho, qui rajoute effectivement un petit peu d'intérêt au match qui, à la base, bah, je m'en foutais complètement. Et toujours ce gros match également entre Roman Reigns et AJ Styles, où en fait cette délivrance où on sent que ça y est, les gars sont prêts à s'en mettre plein la tronche.
Ma note improvisée, allez, 3,75. 3,75 dans un silence total. Non mais
Alors, d'accord.
non mais
Non mais en général, c'est juste qu'en général, tu rabaisses ta note au fur et à mesure, donc
Oui.
D'accord. Attends que je réfléchisse. Non, 3,50. Non. Non, 3,75, je me suis pas trop ennuyé dans ce show malgré les séquences jobber. J'ai bien aimé tout et puis finalement qu'est-ce qui m'a un peu embêté? Ouais, j'allais dire Brooke Shield, pas Brooke Shield, Brooke, je sais plus son
Dana
prénom.
Brooke.
Dana Brooke,
Dana.
voilà. Dana.
On s'en fout tellement.
Dana. Donc du coup, voilà, à part ça, qui était vraiment un peu la déception que j'ai eue sur ce show. Sinon, puis bon, les Shining Stars, tout ça, enfin bon, les trucs qu'on sait que c'est mauvais avant de les voir, donc c'est pas. Donc voilà, est-ce que je suis hypé pour le pay-per-view? Oui. Pas forcément plus pour voir les matchs que vraiment les résultats, parce que j'ai pas l'impression, il n'y a pas de. Je vois pas vraiment d'issue où je serais. Vraiment mécontent ou enfin je veux dire de mec pour lequel je suis un peu plus pour par exemple AJ Styles Roman Reigns peu m'importe si c'est l'un ou l'autre le Fatal 4-Way pareil parce que je sais que si c'est le Miz qui ressort vainqueur ça va continuer avec Cesaro si c'est Cesaro qui ressort vainqueur ça va continuer avec le Miz si c'est Kevin Owens etc enfin tout, de toute façon voilà il y a que du bon là-dedans.
Eh ben moi, je vais donner 3,5. Je vais être, c'est rare, c'est rare que ce soit pas moi qui donne la meilleure note, je crois, de mémoire. Mais
Attends, Hank
ouais.
va peut-être encore la baisser.
C'est pas sûr. Non, je vais mettre 3,5 parce que bon, c'est quand même très positif parce que dans l'ensemble, la balance est largement plus positive. Les matchs ont été bien bookés, enfin bien buildés pour le pay-per-view, les principaux matchs. Donc tous les principaux segments avaient du sens et étaient tous tournés vers le show de dimanche. Le main event, on a parlé, hein, Reigns et AJ Styles, la Bloodline des Usos contre Gallows et Anderson qui vont être dans un Texas Tornado Tag Match apparemment dimanche.
Justement, ouais,
Breaking news, ouais.
j'allais dire, on l'avait oublié de le dire.
Qui vont être dans un Texas Tornado Tag Match. Donc apparemment la stipulation c'est les quatre en même temps. Donc c'est genre gros bordel, je pense que ça va être cool aussi. Mais bon, du coup, tout ça c'était bien amené. Ambrose Jericho, bah voilà, le fait d'ajouter la stipulation, suscite vraiment ma curiosité, quoi. Je vais vouloir regarder ce match avec beaucoup d'attention pour ça. Et je suis assez d'accord sur le constat de Hank, que ça va être un peu tout ou rien. C'est soit ça va être un Hell in a Cell original et rafraîchissant, soit ça va être un cage match un peu random qu'on oubliera aussi vite qu'il a été booké. Mais ça peut être un match vraiment important pour Dean Ambrose, je pense. Et puis bah, sinon, enfin oui, dans l'ensemble, bah, le Fatal 4, ouais, ça va être top. Les filles, bon, ça reste quand même bien amené, même si c'est un peu tombé à plat. Au niveau du négatif, on en a parlé pendant un petit peu toute l'émission, mais voilà, Kalisto contre Rusev, je suis un peu déçu parce que ça fait redondance et ça fait un peu match des perdants. Ils arrivent avec peu de momentum. Corbin Ziggler, je m'en fous. Dana, enfin oui, les filles là, Dana Brooke, Becky Lynch, c'était vraiment pas terrible. Les Shining Stars ont fait une arrivée vraiment pourrie et qui ne mènera nulle part selon moi. Donc voilà, tout n'était quand même pas excellent. Donc voilà, 3,5, ça me semble honnête, mais dans l'ensemble très positif pour dimanche.
Frère de pronostic.
Voilà.
Et ben justement, en parlant de pronostic, je vais appeler ça le Feud of the Year rip-off, en hommage à nos
Oh
amis de Feud of the
là
Year.
là, ils vont pas
Ça va
aimer.
gueuler, ça va
Hein.
gueuler.
J'annonce sa couleur, c'est un rip-off. Mais pour pas qu'on puisse nous attaquer, je vais vous demander de pronostiquer le vaincu de chacun des matchs, et non pas le gagnant.
D'accord.
Et pas droit de me sortir un DQ ou une connerie comme ça. Vous jouez carte sur table, Giscard, tu sors ta paire de 5 là, tu les poses,
D'accord.
et tu me donnez les vaincus. Et attention, ça va être à 200 à l'heure, vous n'avez pas le droit de réfléchir, ok?
Ok.
Ok, donc c'est dans l'ordre, hein, les gars. Moi, je participe pas, je me mouille pas.
Ok.
Alors, Baron Corbin contre Dolph Ziggler, Hank.
Ziggler.
Ziggler.
Ok. Le Dean Ambrose versus Jericho, Hank.
Jericho.
Jericho.
Le Fatal 4-Way. Miz, Cesaro, Owen, Zayn.
Attends, c'est trois perdants?
Ah bah oui.
Oui.
Du coup?
Bah oui.
Alors, merde. Ça va être compliqué, ça. Merde.
Miz,
Le
Cesaro.
Miz, Cesaro et Owens.
Cesaro, Zayn et Owens.
New Day versus Vaudevillain. Qui perd?
Les vaudevillains.
Vaudevillain, ouais, les vaudevillains.
Callisto contre Rusev.
Kalisto.
Putain, je sais pas
On
ça.
réfléchit pas, on balance, on balance.
Rusev.
Charlotte contre Natalia.
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 Roman Reigns contre AJ Styles.
AJ Styles.
Qui va perdre?
Ouais. Je sais pas.
Oui.
Non, Reigns. Non, je vais dire Reigns. Je vais dire Reigns.
Merci, c'était la séquence Feud of the Year rip-off. Et enfin, on va terminer par la fameuse question à la con.
Year of the Pod.
Donc, on va terminer par la fameuse question à la con. Et après, je vous lâche. Après Wade Barrett et Damien Sandow qui ont quitté la WWE, comme vous le savez bien, quel catcheur pour son grand retour, John Cena va-t-il renvoyer au département RH chercher son chèque auprès de Ryback?
Tu veux dire qui va blesser ou
Qui va enterrer? Parce qu'on accuse souvent John Cena d'avoir enterré notamment Wade Barrett et Damien Sandow. Les mecs se sont retrouvés effectivement mis à la rue récemment. D'après vous,
Ouais.
contre qui John Cena va se retrouver à son retour, si vous la voulez un peu plus simple?
Ah, d'accord, contre qui il va se retrouver?
Quel est le programme de John Cena pour son retour?
Genre son premier match, non, juste son premier match, quoi, on va
Ah,
dire.
on va son premier
Bah,
match, sa
sa
première
première feud,
rivalité,
quoi.
ouais, sa première feud.
J'ai envie de dire Rousseff. Once again. Non, mais.
Once in a lifetime.
Allez, non, mais ouais, pour être rapide, je vais dire Rousseff. Pourquoi pas?
Bon, toi, Giscard, le fervent admirateur, fan numéro 1 de John Cena, contre qui
Et
tu verrais bien
bah,
le
écoute,
Marine?
moi je verrais bien John Cena contre AJ Styles.
Très bien. Et ben la réponse dans 2 semaines. D'ici là, vous aurez écouté évidemment ce fabuleux épisode qu'on vient de tourner de Catch Up. Il y en aura un autre qui sera pour le Raw du lendemain du pay-per-view. Et après, il y aura le grand retour de John Cena. Donc,
Ah, enfin.
merci à toi, Hank,
De rien, merci
de
de
m'avoir
m'avoir
prêté.
invité.
De m'avoir prêté. Écoute, c'est vraiment bah, par respect pour parce que t'as été animateur, sinon je t'avoue que bon.
Ouais. J'ai un peu le Michael Cole, quoi, finalement. Je devais être remplacé un jour ou l'autre.
Merci à toi Giscal d'avoir réussi à nous placer voilà, entre deux séquences de préparation de tes pâtes là visiblement.
Je retourne essayer de sauver la casserole que j'ai défoncée.
Et puis visiblement t'as un film aussi à terminer.
Ouais, j'ai plein de trucs à faire.
Voilà, quant à moi, je vous souhaite à tous un bon pay-per-view. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Catch Up. Salut à tous!
Salut tout le monde.
Salut.
Si jamais je sens que je vais renifler, j'essaierai de couper au micro à chaque fois.